30e anniversaire. Depuis 1992, le CJC s'occupe des jeunes de 16 à 35 ans dont le parcours de vie doit être soutenu autrement que par le milieu scolaire. Aujourd'hui, le CJC accompagne environ 800 jeunes adultes de la capitale nationale grâce à 27 logements sociaux, des projets et ateliers, ainsi qu'une vie communautaire. Pour fêter l'anniversaire du CJC, plusieurs événements auront lieu durant la semaine du 13 au 19 juin. Un spectacle déambulatoire aura lieu dans le quartier Saint-Roch. Combiné au 30e anniversaire aura lieu le Festival de la décroissance. Alors que d'autres projets pourraient naître à l'automne, en novembre et décembre 2022, est prévue une exposition photo rétrospective sur l'année par les jeunes du Centre Jacques Cartier. Plus d'informations sur le site du CJC. Irma Levasseur a été la première femme canadienne française à devenir médecin. Exilée aux États-Unis afin de faire ses études, elle revient au Québec et devient en 1903 la première à enfiler un sarrau. Une pétition adressée au CHU de Québec propose de profiter de la transformation majeure de cet hôpital pour en changer le nom pour celui d'une femme d'exception. Pour signer la pétition, rendez-vous sur change.org. La pétition s'appelle « Changement nom de l'hôpital de l'Enfant Jésus pour Irma Levasseur ». Ce soir à 18h, l'émission « Salut à toi » traitera de la campagne de sociofinancement du collectif de lutte et d'action contre le racisme. L'émission abordera également la guerre en Ukraine. Pascaline Lamar, animatrice de « Salut à toi », discutera avec la clinique Droit de Cité qui a pour mission d'accompagner les personnes marginalisées dans la régularisation de leur situation juridique et la défense de leurs droits. Votre émission de gauche sur CKIA FM en ondes ce mercredi à 18h. C'est ce qui complète cette édition du bulletin. Au nom de toute l'équipe, passez une excellente journée à l'antenne de CKIA FM 88.3 et CKIAFM.org.
C'est un jardin extraordinaire. Il y a des canards qui parlent anglais. Je leur donne du pain. Ils remuent leur derrière en me disant « Thank you very much, Monsieur Trenet. » On y voit aussi des statues qui se tiennent tranquilles.
Bonjour et bienvenue à l'émission Le Jeune. Je sais que les ondes de CKIA-FM 88.3 aussi sur Facebook Live. Je m'appelle Larry Hodgson et on va parler encore, comme chaque semaine de Jean-Neige. J'ai plusieurs nouvelles ce matin. Fait qu'on va le regarder l'une après l'autre. Première nouvelle, c'est Michel qui a vu ça. Sur les nouvelles, paraît-il, un nouveau produit qui s'appelle la boîte à planter. C'est une boîte qui peut être livrée à la maison pour un jardinier débutant et qui contient le nécessaire pour faire un tout premier potager. 5-6 feuilles de semences, un guide de jardinage, une fiche descriptive pour chacune des plantes, 15 godettes biodégradables, un sac de terreau, et même une recette offerte par le chef Jean Soulard du Château Frontenac. C'est un peu dans la catégorie des repas tout faits, livrés en boîte à votre porte, que je n'ai jamais laissé en passant. Évidemment, c'est pas pour une jardinier très avancée. Alors, si j'ai bien compris, vous avez une sachet marqué tomate, puis aucune idée de ce que c'est. Donc, c'est le jardinier plus avancé voudrait savoir quelle sorte de tomate. C'est les tailles que ça. Mais pour quelqu'un qui débute, qui a un peu peur, qui ne sait pas quoi faire, ça pourrait être intéressant. Et ça coûte 39,99 plus taxes, j'imagine. Livraison, je ne sais pas. Il faudrait aller voir. Mais à vous de voir. Peut-être que vous avez une amie qui dit oh, c'est ainsi, je veux commencer à faire un premier jardin, mais je ne suis pas trop certain, j'hésite. Envoyez ça comme cadeau. Ça va peut-être les pousser dans la bonne direction. C'est une initiative québécoise. Donc, si vous êtes intéressé, Michel va paraître les coordonnées de la boîte à planter. En bas de l'écran, vous allez pouvoir donc essayer ça. Voilà. La boîte à planter.com. Donc, voilà pour cette publicité gratuite, quoi, parce que, évidemment, je ne peux pas payer pour les autres, mais juste pour. Elle est lancée. L'idée qui est quand même intéressante. Voilà pour ça. autre nouvelle. La chronique horticole de soleil a recommencé. Michel nous fait penser la semaine dernière. Il y a déjà un deuxième article qui est apparu. L'article de cette semaine s'appelle « Mes semences sont-elles encore bonnes? » C'est apparu depuis hier. Et si j'ai bien compris, la chronique va paraître sur l'Internet dès le mardi et en imprimé seulement le samedi. Donc, c'est nouveau pour moi, parce que dans le passé, j'ai écrit le texte, en fait, pour le journal papier. J'ai écrit en vue d'une samedi, après le samedi. Le fait que ça paraisse quelques jours plus tôt, il faut défaire un peu mes idées. Des fois, j'ai choisi un certain sujet à cause d'une date. Mais en tout cas, on va vivre avec ça. C'est une nouvelle façon de faire. Donc, voilà pour cette information-là. Et juste une question, je vais répondre à une question qu'on pose depuis deux semaines et que j'ai oublié de vérifier la semaine dernière. C'est au niveau des inoculants pour les poêlés haricots. Maintenant, une explication. Les inoculants pour poêlés haricots, c'est différentes formes d'une bactérie qui s'appelle Rhizobium. Je n'ai même pas besoin de retenir ça. C'est juste pour dire que les pois, les haricots, les autres légumineuses utilisent pour bien pousser, bien produire les bactéries qui font des colonies sur leurs racines. Les plantes développent des nodules et avec ça, avec l'aide de ces bactéries-là, sont capables d'absorber l'azote de l'air qu'ils utilisent pour la croissance. Alors, c'est pour ça qu'on recommande aux gens d'utiliser des légumineuses dans vos cultures, ça enrichit le sol en azote. Mais beaucoup de ça n'ont pas les bactéries nécessaires. Il faut quand même commencer avec une bactérie. S'il n'y en a pas, vous n'aurez pas. La bactérie ne pourrait pas aider la plante à bien pousser. Donc, normalement, on dit aux gens, la première fois qu'elle veut cultiver des pois ou des haricots, ajoutez une inoculant. Et c'est encore plus vrai si vous cultivez en pot ou dans une terre synthétique. Parce que c'est certain, dans ce cas-là, que l'inoculant naturel, la bactérie naturelle, n'est pas présente. Sauf que ces produits-là sont sur le marché depuis 50 ans. Sauf que l'an dernier, tout d'un coup, le produit disparaît. Il y a un seul fabricant au Canada. Ils ont fermé. J'ai entendu vaguement dire, simplement, c'est un couple qui l'a produit depuis déjà tant d'années, ils ont pris leur retraite. Ils n'avaient pas trouvé personne d'autre pour les remplacer. Donc, ils ont fermé. Ils demandent partout au Canada des jardins en cryomâtre. Où sont nos inoculants? Écoutez, c'est déjà de retour. La bonne nouvelle, c'est que, je ne sais pas s'il y en a peut-être ailleurs aussi, mais c'est chez Vessis que j'ai vu ça. Vessis, c'est V-E-S-E. Excusez-moi, je recommence. V-E-S-E-Y-S. Vessis, c'est un catalogue de semences que beaucoup de gens connaissent. Moi, je reçois tous les ans plein de variétés intéressantes. C'est de langue anglaise. Ça vient de l'île de Prince-Édouard. Mais eux, ils vendent maintenant une inoculant pour les pois. Il y a deux sortes, en fait, de bactéries mélangées ensemble. Une pour les pois, une pour les haricots. Donc, si vous commandez ça, vous n'avez qu'à l'appliquer à la plantation et vos plantes vont pouvoir avoir les bactéries nécessaires. Juste un article inoculant. En anglais, ça s'appelle avec deux N plutôt qu'une seule N. Et voilà. Avec ça, je suis prêt pour les premières questions, Michel. Si Michel est bien là. Il faut y devenir occupé. Écoutez, comme je n'entends pas, je vais commencer avec d'autres choses. J'ai quand même eu une courriel cette semaine pour l'émission. Il faut croire que ce n'est pas passé.
Larry, est-ce que tu m'entends?
Là, je t'entends, oui.
Bon, excuse-moi. Petite manipulation qui n'avait pas été faite. Désolé.
Okay.
Donc, comme première question, Patricia Dufresne, pardon. J'ai offert un bulbe sans terreau à un professeur et après la floraison, il me l'a rapporté avec des boulets remplis de semences. Je me demandais si ces semences sont viables, même sans pollinisation.
Écoutez, s'il y a des des engrais, des, je ne suis plus capable de parler ce matin, des graines qui ont été formées. Donc, à l'intérieur de je ne sais pas quoi, quelle sorte de capsule de fruits que vous avez, parce que bulbe, ça peut être plusieurs choses. Mais s'il y a des graines, c'est qu'il y a une pollinisation. Donc, certaines plantes peuvent s'autopolliniser. Ce n'est pas un problème. Donc, oui, on peut les semer. Maintenant, je ne sais pas quelle sorte de plante que c'est, je peux vous donner plus de détails que ça, parce que sans penser à voir quelle plante, c'est embêtant pour moi de quoi faire avec. Mais que normalement, ça arrive très souvent que des fleurs sont pollinisées par des insectes ou juste par la fleur elle-même. Donc voilà, si vous avez des semences qui ont été formées, c'est fort probable que ce soit des graines liables. Voilà.
Elle a continué en disant, pour les boutures plutôt dures, est-ce que le numéro d'enracinateur, vous en tenez compte? Et est-ce que tu veux répondre à ça? Parce qu'il y a un autre segment à sa question.
C'est bien que Davis fait comme ça, je ne me perds pas. Oui, quand on a des boutures de tous les jours, des choses qui s'enracinent facilement, normalement, le racinement ordinaire se fait très bien. Par contre, il y a des variétés plus fortes, avec un plus grand pourcentage d'hormones pour stimuler l'enracinement, ces plantes plus difficiles. Il y a le numéro 1, c'est facile. Le numéro 2, c'est pour les plantes un peu plus compliquées. Et le numéro 3, c'est pour des plantes très difficiles. Ça, comme des conifères. Parce que je généralise un peu. Certains conifères s'enracinent assez facilement, mais beaucoup sont difficiles. Donc, si c'est une boîte dure, en général, prenez le numéro 2. C'est disponible dans le Centre Jardin. On peut aussi le commander de plusieurs catalogues. Donc, voilà pour la réponse à cette question-là.
Et la dernière partie de sa question, c'est peut-on faire des boutures sur une tige à deux nœuds, mais sans feuillage?
Oui, mais vous êtes à la limite. Moi, personnellement, je vais essayer de... Alors, pour beaucoup de plantes, pas besoin de feuillage. Et là, il peut y avoir des exceptions. Mais en général, c'est pas un gros problème. La plante va en faire de nouvelles feuilles. Donc, ça, c'est pas un problème. Deux nœuds, c'est pas beaucoup. J'aime ça trois et plus. Pourquoi? Parce que souvent, quand imaginez une tige qui a deux marques sur la tige, ça indique où sont des nœuds, c'est les places où il y a déjà une feuille détachée. Ben, quand on coupe une tige, habituellement, il y a une certaine pointure qui s'installe en haut et en bas, et ça progresse vers le milieu. Si vous avez que deux nœuds et que le pointure avance assez loin pour toucher à un nœud et à l'autre nœud, c'est fini, votre bouture, ça ne marchera pas. S'il y a trois nœuds, le nœud du milieu a pour des mois sans être touché par la pointure. Donc, moi, j'aime bien avoir trois. Deux, ça peut très bien marcher pour beaucoup de plantes, si tout va bien. Mais moi, j'aime mieux avoir un troisième nœud pour être plus certain de ne pas avoir la pointure gaspiller votre temps. Voilà.
Il va donc avec une prochaine question. Celle de Jeannette Ouellet. J'ai suivi la méthode du jardinier paresseux pour démarrer un potager surélevé l'année dernière. Plusieurs feuilles de papier journal sur le gazon. Bonne nouvelle, terre dessous, encadrée de blocs de ciment. J'avais bien mis du paillis de feuilles. J'ai eu très peu de mauvaises, entre guillemets, herbes. En voulant incorporer du compost en fin de saison, j'ai constaté que ma terre était très difficile à remuer, remplie de petites radicelles de style gazon, je pense, entre parenthèses, très difficile de passer le râteau. Que s'est-il passé? Est-ce qu'il y a un problème? Quelque chose à faire?
C'est probablement juste les racines de vos plantes. Que vous, quand vous faites un potager, la terre fraîche, un potager frais, tout frais, il n'y a jamais rien là-dedans, il n'y a pas de racines. Mais à la fin de la saison, c'est plein de racines. Vos plantes laissent les racines dans le sol. Même si on les arrache, il reste les racines dans le sol. Et donc, c'est tout à fait normal. Ces racines meurent et commencent à pourrir. Et souvent, au printemps, il y en a relativement peu, ou même sans complètement disparu. Donc, il ne faut pas s'inquiéter. C'est tout à fait normal et ça prend plus d'avant la deuxième année que la première année. C'est les mauvaises herbes qu'il faut être arrachées. Tout de suite, il ne faut pas les laisser gagner la place. ça laisse trop longtemps, ils finissent par s'infiltrer et ne plus lâcher prise. Voilà.
Madame Ouellette, inquiétez-vous pas, j'ai réussi à reprendre mon souffle parce que comme c'était une longue question, elle a mentionné que j'aurais peut-être de la difficulté à reprendre mon souffle. Non, tout va bien, tout est là. Je peux même continuer avec une autre question. Une autre question donc de Patricia Dufresne. Je vous ai entendu parler de certaines plantes qu'il est possible de bouturer une seule feuille sans tige, comme par exemple le Montera, mais plus loin, elle écrit l'amaryllis, sans que ça puisse donner une nouvelle plante, mais que cette feuille survivra, de ce que j'en ai compris. Alors, est-ce que ça resterait une plante quand même viable?
OK. Certaines plantes très rares, pas une amaryllis d'ailleurs, ce serait plutôt une Monstera, oui, ça peut arriver, ou certaines ficus comme le caoutchouc d'une ficus, ou un croton, ou quoi d'autre. En tout cas, certaines plantes, c'est quand même bizarre. Si vous bouturez une feuille, elles font des racines, mais ça ne va pas plus loin. C'est fini là. Vous n'avez qu'une feuille. Et ça peut vivre des fois des mois, des années. Juste une feuille. Pas plus. C'est quand même bizarre. C'est comme on coupe le bras à quelqu'un qu'on plante dans le sol, et ça reste en vie, mais sans jamais servir à quoi que ce soit. Donc, c'est réellement bizarre, et ça arrive pour certaines plantes. C'est très rare. Il n'y a pas tellement de plantes où on peut bouturer des feuilles pour obtenir des plantes, mais au moins, il y en a plus que des plantes où on peut bouturer des feuilles et que ça ne donne que des racines et rien d'autre. Il n'y a aucune explication. Donc, on ne voit aucune utilité à ça. Pourquoi les plantes ont évolué de cette façon-là? Mais ça, c'est vrai que certaines plantes, encore le plus courant, ce qu'on voit, c'est, je pense, c'est le caoutchouc ou encore le croton. Ces plantes-là font des racines si on fait un bout de feuille et jamais d'autre chose. Par contre, si vous faites un bout de tige, ben, toutes ces plantes se bouturent très, très bien. Voilà.
On poursuit maintenant avec la question de Joanne Guy. Est-ce que l'on peut offrir à boire aux pollinisateurs, si oui, de l'eau ou autre?
Ben oui, on peut offrir à boire. Le plus logique, c'est l'eau. On peut offrir d'autres choses. Ils sont souvent, et ça dépend desquels, avides d'eau sucrée. Mais l'eau sucrée peut apporter des développements de moisissures, des champignons, des bactéries qui sont peut-être nuisibles. Donc, le plus logique, c'est de l'eau et de changer l'eau souvent. Et évidemment, il faut penser, on ne parle pas d'un étang. On parle d'une soucoupe avec quelques gouttes, en fait. Quelque chose qui va se vaporer dans la journée ou de l'eau vaporisée sur une feuille. C'est aussi facile que ça. C'est vrai que, évidemment, c'est moins nécessaire quand c'est un été relativement normal qui pleut de temps en autre. La plupart de nos pollinisateurs sont très bien avec ça. Mais si un été spécialement chaud et sec, un petit peu d'eau de temps en autre, oui, ça peut le faire bien.
Manon Frève. Mon amaryllis Ferrari a produit 8 capsules de graines. J'aimerais conserver ce gros bulbe parce qu'il a produit beaucoup de fleurs. Comment dois-je procéder? Qu'est-ce que je dois faire avec les tiges et capsules?
Écoutez, si vous voulez garder les graines, ce n'est pas obligatoire. Si vous voulez le faire, laissez-la sur la plante. Quand la capsule va commencer à s'ouvrir, vous allez voir les graines noires à l'intérieur. Là, les graines sont mûres, vous pouvez les enlever et les semer. Par contre, ces amaryllis sont à plusieurs années de la floraison, premièrement. Et deuxièmement, Ferrari est un hybride. Vous avez deviné, hein? C'est pas un nom d'espèce. C'est un hybride. Et dans ce cas-là, les semences vont donner d'autres choses. Ça n'est pas identique. Donc, normalement, beaucoup de gens vont tout simplement supprimer la fleur de leur amaryllis après la floraison. Et là, c'est que le feuillage poussé. Mais comme c'est déjà rendu là, allez-y pour l'expérience. Mais le plus important, c'est d'entretenir le bulbe. Donc, le bulbe d'amaryllis, à cette période-ci, la plupart ont fini de fleurir. Donc, c'est le moment de s'occuper du feuillage. Ça prend énormément de lumière pour un amaryllis. Le plus de soleil, vous êtes capable de donner. Et de l'engrais régulièrement aussi. Donc, placez le bulbe ou la fleur est enlevée, si vous voulez, devant une fenêtre, laisser la plante absorber un maximum de lumière. Continuer durant tout l'été jusqu'à l'automne. Certaines personnes vont les mettre dehors pour l'été, c'est pas un problème. Il faut juste les acclimater avant de les sortir. Continuer tout l'été comme ça, et à l'automne, rentrer la plante, ou si vous l'avez laissée à l'intérieur, là, vous avez un travail à faire. C'est que l'amaryllis fleurit mieux lorsqu'elle subit une période de repos. Normalement, dans la nature, c'est l'hiver. Mais comme on aime les amaryllis qui fleurissent plus tôt dans la saison, on va souvent le faire subir une période de froid, et de sécheresse surtout à l'automne. Donc, quand vous rentrez le bulbe, arrêtez de l'arroser, le feuillage va jaunir, laissez le feuillage disparaître, enlevez là. Et par la suite, après 2 mois à peu près, vous pouvez mettre le bulbe n'importe où à ce moment-là. À la noirceur, dans une garde-robe, ça n'a pas d'importance. Le bulbe est dormant. Après quelques mois, vous allez voir déjà un début de croissance. Si oui, ben c'est le temps de sortir la plante. Mais commencez à l'arroser, un nouveau cycle va commencer. Voilà.
Daniel Cordeau veut savoir, est-ce que c'est le temps de bouturer des bougainvilliers et si oui, comment?
Oui, c'est une excellente période pour bouturer un bougainvillier et la plupart des plantes. Il faut penser que maintenant, nous sommes presque au printemps. Les jours rallongent, les plantes réagissent à ça. Elles sont, leur énergie, elles ont comme mis de côté pour l'hiver, pour survivre. Maintenant, commence à être stimulé, à pousser. Et donc, ça stimule aussi l'enracinement chez les boutures. Donc, on peut le faire maintenant ou encore durant tout le printemps. Et pour dans le cas de bougainvillier, prenez une tige de peu près, moi, je dirais 20 cm de long. Ça devrait être assez. Enlevez les feuilles inférieures. Appliquez quand même une hormone d'enracinement. C'est important pour cette plante-là. Et vous le faites bouturer dans du terreau humide. Couvrez avec un sac plastique ou une dôme, un plastique transparent, parce que le bouturage, l'enracinement d'un bouture se fait toujours mieux sous une certaine chaleur. Donc, c'est comme ça que vous allez pouvoir avoir une bonne chaleur pour l'enracinement. Et quand vous voyez de nouvelles feuilles sortir, vous pouvez calculer que les racines sont en train de se faire parce que vous enlevez le dôme ou le sac. Et voilà, vous avez un nouveau petit plat de votre bougainvillier qui devrait fleurir, peut-être pas cette année-ci, mais la deuxième année. Voilà.
Marie-Josée Landry, l'an dernier, j'ai acheté des Physocarpus Ginger Wine. Est-ce que je dois les tailler et si oui, au printemps ou à l'automne?
Bon, Physocarpus Ginger Wine est surtout cultivé pour son beau feuillage coloré. La floraison est quand même intéressante, mais pas essentielle. Ce qui veut dire que vous choisir, parce que souvent avec la taille des arbustes, les dates qu'on donne ou les périodes où on dit tailler, c'est pour encourager la floraison. Bon, dans votre cas, si vous manquez de floraison, c'est pas le fin du monde. Donc, vous pouvez tailler presque n'importe quand, un arbuste semblable. Mais, souvent, ce qu'on va faire pour une plante comme ça, qui fleurit sur le bois, produit l'année précédente, on va le tailler après la floraison. Comme ça, on va voir les fleurs et vous allez voir de nouvelles feuilles qui vont sortir pour la suite. Dans ce cas-là, on parle d'une taille au mois de mai, probablement, parce que la floraison est au printemps, mais plus vers la fin du printemps. Est-ce que vous devez les tailler? Ça, c'est une autre histoire complètement. Non, vous n'êtes pas obligé. Vous n'êtes jamais obligé de tailler une physocarpe. Vous n'aurez plus pas des arbustes non plus. L'idée d'un devoir de taille, c'est un peu une invention de l'être humain. Moi-même, c'est compliqué la vie. Hein. Mais c'est sûr que si vous plantez une grosse arbuste dans un petit espace, ça vous oblige de tailler. Et comme on aime des plantes de port assez réguliers, si une branche devient trop longue, tentez de couper pour que les autres, pour que ça paraisse plus égal. Ou on peut même tailler une visocarpe pour faire un haie. Mais obligation, non. C'est juste quelque chose que vous pouvez faire si vous voulez. Et pour beaucoup de gens, ne taillent pas de visocarpe. C'est pas un arbuste qui devient si gros que ça. Et donc, en général, on pousse, on laisse pousser sans s'en occuper. Facile.
Mélanie Poirier, pardon. Que dois-je donner à mes arbres fruitiers? Entre parenthèses, poirier, pêcher et pommier, pour avoir de beaux fruits durant la belle saison qui s'en vient.
Bon, de toute façon, Le gros travail est déjà fait. Donc, la plante a préparé sa floraison et sa fructification l'année précédente. Donc, tout ce qu'il y avait pour stimuler ça, c'était fait l'an dernier. La plante a absorbé plus d'engrais, a mis de côté plus de minéraux, plus de sucre, plus d'amidon, en vue de la floraison ce printemps. Après la floraison, pendant la floraison, il va y avoir un croisement. Le pollen va se rapporter d'une variété à une autre et les fruits se forment, ils grossissent. Donc, le gros travail est déjà fait. Qu'est-ce que vous pouvez faire au printemps? Vous pouvez toujours aller voir vos arbustes. Maintenant qu'ils sortent du foie de l'hiver, vos arbres, je veux dire, et aller voir s'il y a des branches qu'il vaut mieux supprimer parce qu'elles sont brisées, peut-être qu'elles ont des maladies, peut-être qu'elles sont croches. Ce serait un bon moment pour le faire. Évidemment, si vous les taillez maintenant, vous perdrez des fruits, des fleurs sur cette partie-là. Mais c'est pour mieux permettre la plante de fleurir ailleurs. Donc, c'est un mal pour le bien, quoi. Donc, essentiellement, c'est ça. Vous n'avez pas autant de ça à faire. Durant l'été, non, c'est là. Fin de printemps, l'été, c'est le moment pour penser fertiliser. Et seulement modestement, pour les plantes si gourmandes que ça, de façon à mieux aider la floraison de l'an prochain. Surtout, ne vaporisez pas de pesticides, nuisez vos insectes lors de la floraison, parce qu'il faut encourager le passage des insectes d'un arbre à un autre.
Eliane Laberge, 100% d'humidité, pardon, dans un greenhouse, est-ce trop?
Pour vous, peut-être, si c'est une grande potentielle, peut-être une toute petite chose, peut-être une énorme chose. Pour la plante, non. La plupart des plantes, pas du tout, ça ne dérange pas. Par contre, si c'est une succulente, ou un cactus, ou une plante de climat aride en général, c'est mieux d'avoir moins de 50% d'humidité. Et pour les autres, ce n'est pas un problème du tout. Quand vous faites des boutures, des semis sous dôme ou dans un sac de plastique, c'est près de 100%. Peut-être 100%, peut-être tout près. Et ça ne nuit pas du tout, ça. C'est même bénéfique. Donc, ce n'est pas un problème vraiment.
Virginie Picard écrit, j'ai gardé mes bulbes de canasse et glaïeul à l'automne passé. J'aimerais savoir à quel moment les repartir à l'intérieur. Je les mets dans un pot de combien de diamètre, avec quelle sorte de terreau, et est-ce que je mets qu'un bulbe par pot? Je suis en zone 4B.
OK. Donc, vous avez deux plantes différentes. Les besoins sont légèrement différents. Premièrement, les glaïeuls, ce n'est pas obligatoire. Les glaïeuls, si vous plantez directement là, ça va fleurir. Ça va juste hanter la floraison. Donc, il ne faut pas trop aller trop tôt avec les glaïeuls. Moi, je dirais, gagner 2-3 semaines, faites ça fin de mai, tout simplement. Parce que lui, ce n'est pas un problème. Ça fleurit, et même dans... En général, les grands glaïeuls sont les plus tardifs et les variétés les plus petites fleurissent plus tôt. À vous de décider si vous voulez semer et planter à l'intérieur ou pas. Ça vous donne quelques semaines d'avance, ce floraison. Dans le cas du canard, par contre, en général, c'est très bien les plantes de la maison. Alors que les glaïeuls tournent très bien la fraîcheur, les sols frais, la canard n'aime pas le froid. Donc, imaginez-vous, avant que le sol soit chaud, on est rendu au mois de fin de juin, en juillet. C'est tard pour planter. Donc, on va souvent les partir tôt, dès le mois d'avril, par exemple, même fin de mars. Et on va lui donner une chance de commencer à pousser sous la chaleur. On va les cultiver sous la chaleur. On va les acclimater tranquillement aux conditions de jardin vers la fin de mai, début de juin, en ne sortant qu'une fois qu'il n'y a plus de fraîcheur dans l'air. Donc, oui, là, ça peut valoir la peine. Maintenant, côté quelle sorte de terreau, c'est tellement pas d'importance, ça peut être n'importe quoi. Je dirais, un terreau pour l'empotage, c'est parfaitement bien. Taille de pot, écoutez, ou nombre de bulles par pot, ça dépend de vous. Comment vous allez cultiver les plantes? Moi, j'ai tendance à planter un bulle par pot si j'ai différentes variétés. Si j'ai une bulbe qui s'est déjà divisée en deux ou trois, alors je vais mettre les trois palettes dans un pot plus gros, le cas des canards, par exemple. Mais c'est vraiment que être capable de rentrer le bulbe dans un pot, si oui, c'est probablement assez gros. N'oubliez pas que c'est une maison temporaire. Vous allez repiquer plus tard, soit dans le zone du jardin ou dans un contenant beaucoup plus gros à l'extérieur. C'est que pour partir dans la maison, tu peux même mettre un plateau. C'est pas très, très important, la taille. Tant que c'est assez pour que le bulbe puisse commencer à partir et faire des racines.
Maryse, la fortune veut savoir si tu as des suggestions de plantes grimpantes pour cacher une clôture en treillis de métal. Idéalement, des plantes qui ne demandent pas trop de taille.
Écoutez, si vous plantez une grimpante, c'est une clôture en métal, comme ça, la tige de métal. La taille n'est presque pas un problème, parce que c'est des grimpantes. Elles vont monter sur ce qu'elles trouvent, et quand elles arrivent en haut, elles ne trouvent pas d'autre chose, elles vont arrêter de monter. Donc, c'est pas très compliqué, ça. Côté choix, mon Dieu, vous avez tellement de choix, et vraiment tellement de choix, que ce soit des annuels, comme les bois du matin, comme les haricots d'Espagne, ça vous donne les résultats tout de suite la première année, ou des vertigrinas, comme le pot de senteur vivace, qui vont fleurer surtout le deuxième, troisième, quatrième, ou des vertigrinas, type arbustive, comme les clématites, ou les serverfeuilles grimpantes. Écoutez, tout ça, vous avez énormément de choix. Et c'est juste prendre une plante qui est capable de monter sur un treillis ou sur une tuteur. Et la plupart sont capables. C'est vraiment très facile. Le seul défaut, ces grandes plantes-là, c'est qu'elles vont monter sur les clôtures. Elles n'iront pas beaucoup plus loin parce que les clôtures ne montent pas plus haut. Et s'ils trouvent un arbre ou un arbuste ou quelque chose à côté, elles vont vite essayer de l'envahir. C'est là où il faut les contrôler un peu.
Marina Waite a dit qu'elle a conservé des fines herbes à l'intérieur. Malheureusement, je ne les ai pas assez arrosées. J'ai réussi à faire revivre le basilic, la menthe et ciboulette. Le plant de romarin semble être mort. Avez-vous des conseils pour le sauver? Ou je serais mieux d'en acheter un nouveau?
Dès le départ, vous savez, cette histoire de cultiver des fines herbes dans la maison, c'est un peu une rêve que les gens se font de cultiver des fines herbes extraordinaires dans la maison. C'est vraiment pas une place pour faire ça. Et la plupart des périssent. Vous dites qu'ils ont manqué d'eau ou c'est peut-être avoir d'autres choses. En général, on les perd, l'un après l'autre. Probablement que votre basilic est encore en vie, c'est excellent, mais il y a des bonnes chances qu'ils disparaissent peu après. Parce que c'est dur, l'hiver sur ces plantes-là. C'est pas dans la nature de pousser à l'intérieur l'hiver. Donc, c'est vraiment mal. C'est sûr qu'une ciboulette, une fois qu'on la remet dehors, ça va reprendre probablement, ou le menthe aussi, mais les deux auraient été mieux dehors. C'est des plantes extérieures, hein? Elles sont parfaitement rustiques. Ça fait juste les stresser, les rentrer. Donc, moi, je suis pas quelqu'un... C'est sûr que quelqu'un qui a un éclairage extraordinaire, probablement payé plusieurs centaines de dollars pour éclairer les plantes comme si c'était l'été, et donc les fines herbes vont valoir un prix d'or. Ça peut se faire. Mais les plantes ne sont pas heureuses pareil. En dehors qu'elles sentent qu'elles sont à l'intérieur, c'est difficile, c'est pas vraiment... Sentez-vous pas coupable. C'est tout le monde vit la même chose. Vous n'avez pas l'idée le nombre de fois que j'ai essayé de garder les fines herbes dans la maison et que je les ai perdues ou elles sont en tellement mauvais état que je les ai jetées. C'est pas vraiment facile à faire. Donc, des fois, dans le genre de mâche, ouais, un peu paresseux, mettez les plantes où elles veulent pousser. La plupart des fines herbes sont des plantes d'extérieur, soit des vivaces qui peuvent vous retenir d'année en année sans le moindre soin, comme les ciboulettes, comme, qu'est-ce que vous avez dit, la menthe, comme la serriette, comme le thym. Ou c'est des vérités qui ne sont pas capables de passer l'hiver. Dans ce cas-là, le plus facile, c'est soit de ressemer ou d'acheter d'autres plantes au printemps. C'est comme ça que ça fonctionne. Quand on a essayé de faire quelque chose à une plante et qu'elle ne veut pas, ça donne vraiment des bons résultats.
Sylvie Trépanier, mes yuccas que j'ai depuis longtemps ont pour la première fois les bouts des feuilles très jaunes. Est-ce brûlé par le froid?
Oh, probablement. Vous savez que vous avez eu de la chance. Je présume que vous êtes dans une région chaude. Parce que les yuccas à l'extérieur, oh là là, ça va d'habitude pas très bien. À Québec, quand, si ça survit, ça a l'air, oh, un état épouvantable au printemps. Les feuilles sont brunes, on sent le pourri. Oh, terrible, terrible. À Montréal, peut-être un peu moins pire. Mais oui. Évidemment, n'oubliez pas que l'hiver était l'un des plus froids qu'on a vu depuis longtemps. Donc, ça veut dire que quelqu'un qui disait, par exemple, que la région de Montréal était maintenant en zone 6, et je m'excuse, mais vous n'avez pas compté sur un vrai hiver. Et de temps en temps, on va en voir. Donc, coupez les bouts sans jaune au printemps et attendez voir. Souvent, ces feuilles-là meurent de toute façon. Mais de nouvelles feuilles paraissent et les plantes vont récupérer. Et c'est toujours bien de bien protéger une plante à la limite, comme ça. Ou encore, je recommande depuis des années, mais personne n'écoute, bien sûr, pour pouvoir planter une yucca rustique. Il y a une yucca, le yucca glauque, qui vient de l'Alberta, de Saskatchewan. Ce yucca-là, on le plante, c'est parfaitement rustique, ça ne brûle jamais, et les marchands ne le vendent pas. Je pense qu'ils ne le vendent pas, parce que ça ne ment pas. Et si ça ne ment pas, ils ne peuvent pas en vendre d'autres. C'est méchant de dire ça. Hein? Mais comment expliquer que le yucca, le seul yucca bien adapté au climat, les centres jordaniens ne nous vendent pas ça. Ils nous vendent des plantes de zone 6 qui vont avoir des problèmes. C'est pas logique du tout.
Patricia Dufresne, si j'ai semé plusieurs variétés de courges, je sais bien que je pourrais reprendre mes semences pour l'année suivante. Mais si j'isole une fleur en sachet et pollinise manuellement cela fonctionnera-t-il de récupérer les graines de légumes qui en sortira?
Bien sûr. Parce que le problème, juste pour que les gens n'ont pas compris, c'est que les courges, d'ailleurs beaucoup de plantes de jardin, mais les courges, surtout encore plus que d'autres, sont très, très, très faciles à croiser. Si vous cultivez deux courges différentes, courge spaghetti, courge d'une citrouille, par exemple, ou une zucchini, peu importe, les insectes pollinisateurs ne voient pas la différence. Ils vont entre les deux, il n'y a pas de problème de l'un à l'autre. Et la prochaine génération, vous avez une courge qui est à moitié courge spaghetti, moitié courge zucchini, ou à moitié citrouille, à moitié courge spaghetti. C'est un complet mélange total. Et c'est parce qu'on laisse faire la nature. Si vous prenez la peine de prendre un petit sac à filtrer, qui laisse entrer l'air un peu, et vous isolez votre plante, votre fleur, femelle, et vous transportez vous-même le pollen, disons, zucchini. Vous prenez la fleur, zucchini sur la plante, avant que ça ouvre, vous couvrez déjà avec un filtre pour pas que les insectes rentrent, pour pas avoir d'accident. Quand la fleur s'ouvre, vous cherchez sur un autre zucchini de la même sorte. Vous cherchez du pollen, du flamand, vous mettez sur la fleur femelle. Faites-le le matin de préférence, peut-être une deuxième fois dans la journée, et vous refermez dès que vous êtes passé. Si le fruit se forme, les graines se forment et mûrissent, là, les plantes vont être fidèles au type.
Élise Gosselin, la hampe florale de mon clicquot reste coincée au centre des feuilles. Pourquoi?
Clivia. Parce que vous savez que c'est
Larry, excuse-moi. Ça s'écrit C-L-I-Q-U-A. C'est comme ça qu'elle l'a écrit.
Oui, mais ça se peut que ce soit. Vous savez, les espèces de choses qui corrigent l'orthographe. Et si on ne regarde pas, ça met n'importe quoi. Donc, moi, je pense que c'est Clivia. Je ne connais rien qui ressemble à ça. Et je pense que je sais ce qui se passe. Et Clivia est une belle plante intérieure. Des fleurs oranges, en trompette, beaux, belles feuilles, longues, comme un amaryllis, qui persiste toute l'année. Mais la plante a tendance, des fois, à faire des fleurs tout bas, presque cachées par le feuillage, plutôt que sur une tige élevée. Le secret dans ce cas-là, peut-être plus tard pour cette année-ci, mais vous ferez l'an prochain. Cette plante-là a besoin d'un repos au frais durant le mois d'hiver. Pas nécessairement froid, mais certainement plus frais et avec beaucoup moins de rosage. Vous pouvez même ne pas l'arroser de l'hiver. Quand ça arrive, ça réplique les conditions dans la nature. Et dans ce cas-là, quand la tige fleurante commence à sortir, qui est signe d'ailleurs qu'il faut là, il faut commencer à arroser, la tige va être longue et vous aurez une belle floraison.
Donc, on continue avec Patricia Dufresne. Quelles sont vos astuces pour la fameuse fonte des semis?
La fonte des semis, pour ceux qui ne comprennent pas, c'est une maladie. Bien, c'est pas une maladie. C'est plusieurs maladies. C'est une maladie fongique. Il y a quelque chose comme 150 qu'on connaît actuellement. C'est incroyable. Et c'est une maladie qui frappe les semis. Lorsque la plante germe, tout va bien. Et tout d'un coup, on se lève un matin et les plantes sont couchées sur le côté. Quand on a qui sont pincées à la base, c'est toujours brun ou brun ou noir. Et c'est fini. On ne peut rien faire. Donc, comment est-ce qu'on peut faire pour réparer ça? D'abord, si c'est déjà arrivé, souvent, vous avez semé dans un plateau, une partie a déjà la maladie, sont tombées, c'est fini, il n'y a rien à faire. Mais les autres sont encore en vie. Il faut toujours essayer de vaporiser, de saupoudrer avec la camomille ou un autre produit semblable pour prévenir ce qui est de prévenir. Moi, par contre, c'est pas ça que je fais. Je fais deux choses. Un, j'utilise que du terreau frais pour les semis, surtout les fragiles. Faire sortir du cercle. Parce que les spores de ces maladies-là sont dans l'air. Et avec le temps, tu le sais qu'il a depuis un an. Ça peut rentrer et contaminer le sol. Avec un sac qui est fraîchement ouvert, vous mettez les choses de votre côté. Première chose, toujours sac neuf. Pour les semis, si il reste du terreau, je peux le mettre sur les plantes intérieures pour le rempotage ou d'autres choses, mais pas pour les semis. Première chose, donc, prévenir l'arrivée de la maladie. Deuxième truc, c'est d'utiliser que du terreau fait pour l'intérieur. Jamais de terre de jardin. C'est transporté facilement sur des terreaux de jardin, terre de jardin, jamais qu'on utilise ça, même le compost. J'aime bien le compost, j'en mets dans mes plantes, mais pas quand je fais des semis. Ça va venir plus tard. Ça, c'est les sources potentielles. Les outils, on les nettoie. Donc, c'est une deuxième chose. Troisièmement, on peut saupoudrer le terreau, la fin de semis, avec la mousse de saigne prélevée en poudre. Aux États-Unis, ils peuvent acheter ça. Hein? Le saigne en poudre, ça existe. Chez nous, je n'ai jamais trouvé ça. Moi, je prends quelques... J'ai de mousse à saigne à la maison pour différentes utilisations, pour le bouturage, etc., etc. Mais j'en mets du saigne sèche dans un moulin à café, je le mets en poudre. Et plutôt que de couvrir mes saignes avec du terreau, je mets ça. Et ce produit-là, c'est un produit antibactérien, un produit antifongique. Et donc, vos semis marchent parfaitement. C'est une autre chose qu'on peut faire pour prévenir ça.
Nicole Coulombe te demande, j'ai reçu des fleurs coupées et certaines ont des petites graines à l'intérieur. Est-ce que je peux les semer et avoir d'autres fleurs, entre autres les roses?
OK. Évidemment, il y a tellement de fleurs coupées, ça veut dire différentes choses. Si le fruit, le capsule, arrive à la maturité, donc, soit change de couleur dans le côté du fruit, devient un couleur vif, ou devient brun, c'est que c'est rendu à la maturité. Dans ce cas-là, on peut ouvrir le fruit, le capsule, sortir les graines et essayer. Mais ce serait toujours une expérience, parce que on ne sait jamais comment ça va fonctionner. Alors, vous allez voir, souvent, les graines n'étaient pas mûres, mais ça peut marcher. C'est pas quelque chose qu'on voit souvent, mais ça peut des fois marcher, oui.
Donc, on continue avec Joanne Demers. L'été dernier, j'ai tenté à trois reprises de semer des carottes, mais sans succès intéressant. Avez-vous des conseils pour réussir les carottes?
OK, la carotte est toujours dans le fil de retour aujourd'hui. Les graines sont petites, elles sont fragiles, elles ne se conservent pas très bien. Et La germination est lente et irrégulière. Tout ce qu'on ne veut pas. Et c'est le cas. Alors, je suggère quelque chose qu'on peut essayer. Ce serait, avant d'aller au pire, disons que, avant d'aller à une solution partielle, cette année-ci, semez vos graines, comme d'habitude, semez-les au jardin, pas à l'intérieur. Semez-les au jardin, comme d'habitude, et couvrez à peine de terre. OK, voilà. Maintenant, appliquez, mettez pas dessus, carrément sur le sol, si vous voulez, ou presque. Mettez une couverture flottante. Alors, la couverture flottante, c'est pas conçu pour ça. Mais c'est l'avantage de couper la perte d'eau, de couper le mouvement d'air, de stimuler le milieu un peu plus chaud, et ça fait beaucoup de bien aux jeunes cèpes semi-fragiles. Vous laissez la couverture flottante là, jusqu'à ce que vous voyez la germination. Et ça peut être 2 semaines, 3 semaines. C'est pas vite. C'est une possibilité. Oh, j'ai oublié de dire. Vous pouvez toujours tenter de faire tremper vos graines de carottes dans l'eau tiède 24 heures avant de les semer. Dans ce cas, par contre, vous allez voir, c'est un peu difficile. Moi, je prends une épingle parce que c'est difficile de les saisir autrement. Essayez ça. Moi, je trouve avec une épingle, je vais aller sortir les plantes une par une. Mais c'est une chose qui peut aider aussi. Maintenant, quoi d'autre? Si même ça, ça ne marche pas, vous serez mieux de les semer à l'intérieur. Pas dans le terreau. Semez-les sur tapis buvard quelconque, je ne sais pas, tapis de cuisine, quelque chose comme ça. Un milieu humide. Semez les graines sur la surface. Mettez-le légèrement humide, le papier. Mettez ça dans un sac de plastique transparent, steel baggies. Et quand, lorsque vous voyez la germination, mais il ne faut pas attendre, juste de tous les deux. Si vous attendez trop longtemps, les racines ne formeront pas une bonne racine épaisse comme on veut. Il faut vraiment transférer ça dehors quand ils sont encore tout petits. Et ça, je laisse ça pour des cas extrêmes. Parce que c'est beaucoup de travail, mais ça peut vous aider éventuellement.
La prochaine question est de Madge Rousseau. Je m'excuse si je prononce mal le prénom. Là. Est-ce qu'on peut acheter... Pardon, ça bouge. Est-ce qu'on peut acheter donc un bougainville en cette période, car j'aimerais l'avoir jeune pour éviter les parasites qu'il peut y avoir en serre commerciale.
Écoutez, allez voir. Je ne peux pas vous dire. Ça se peut que ce soit des semences. Mais d'habitude, les centres jardins vont les sortir en pleine fleurité parce que ça très bien, ça vend bien. Si vous achetez ça tôt, c'est tout petit encore, pas beaucoup de fleurs, ça vend moins bien. Par contre, ça ne règle pas votre problème de parasite. C'est qu'ils sont quand même produits en serre. Donc, il faut quand même les surveiller, toujours les mettre à part. Justement, j'ai un courriel de quelqu'un qui a un gros problème de cochenille sur cette plante uniquement, après un an de culture. Donc, ils étaient là, le chat. Ça prend du temps, des fois, avant d'après se voir qu'on a des cochenilles farineuses. Mais souvent, c'est là, donc. Il faut faire toujours attention aux plantes achetées pour être certain que ça ne transporte pas les insectes indésirables. Mais les acheter jeunes, ça ne veut pas dire nécessairement que vous êtes plus à l'épreuve que quelqu'un qui l'achète plus mature. Et si l'insecte est là, elle peut voyager de plante en plante, même quand les plantes sont jeunes.
J'ai une question un peu personnelle par rapport à ce que tu viens de dire, Larry. Tu parles d'insectes. Quand on va en centre-jardin, si on regarde une plante, est-ce qu'on peut voir les insectes pour dire « Ah, je vais prendre celle-là au lieu de celle-là » parce qu'elle, elle a des insectes et elle n'en a pas?
En partie, oui. Moi, je dis aux gens de toujours de regarder. Regardez à la selle des feuilles, celle-là où se cachent souvent les... Certains insectes se cachent à la selle des feuilles. D'autres actifs jouent sous les feuilles. C'est toujours bien d'inspecter avant l'achat. La question, par contre, c'est que faire si vous en trouvez? Parce que si vous en trouvez sur une plante, ça se peut que quelqu'un voisin en a aussi. Donc, moi, j'aurais tendance à éviter. Parce que la plupart de nos plantes qu'on achète viennent d'une même serre. Elles ont été multipliées par qui sait dans quel pays, probablement à l'étranger. Et elles peuvent tous être infestées. mais il arrive en l'eau tout en même temps. Donc, toutes les plantes ensemble, on peut avoir tout le même problème. Donc, ça serait mieux de choisir d'autres choses. Et si vous avouez que ça arrive souvent, c'est mieux de changer de pépinière. Ben, c'est un peu plat pour le vendeur, hein? Le revendeur de centre de jardin. Le pépinière, c'est pas lui qui produit ces plantes en général. Il les achète. Mais s'il achète des produits contaminés, ils sont contaminés pareil. Donc, il faut faire attention quand même.
Donc, on continue avec une question de Manon Frève. J'ai un bac en plastique qui a 6 pouces de profond. Il est accroché à ma rampe de balcon en plein soleil. Quel plant pas trop exigeant pourrais-je mettre comme fines herbes ou petits légumes? Merci.
Oh, c'est petit, pas à peu près. À l'intérieur, on a un meilleur contrôle sur la température, sur l'arrosage. Ça peut aller. À l'extérieur, pas grand-chose. Ça peut sécher. Un pot semblable en plein air peut sécher dans le temps de le dire. Donc, si vous voulez à tout prix faire ça, je ne donnerai pas de conseil de plante. Choisissez une petite plante. Dès qu'elle grossisse un peu, transportez dans un pot plus gros. Ce n'est pas l'idéal. Juste pour dire, j'ai fait la gaffe quand je débutais, là, je parle d'il y a 40 quelque chose d'années, là, d'acheter une toute petite boîte à fleurs miniature. C'est parce qu'il était moins cher. Et d'avoir vu tout raté. C'était terrible. Et pourtant, j'ai essayé tant comme autant de faire pousser les choses devant. La deuxième année, j'ai commencé avec les dépôts de bonne taille. Et tout d'un coup, j'avais des pouces verts. Pouces noirs, pouces verts. Juste parce que j'ai changé de grosseur de peau. Ça fait une grosse différence. Encore à l'intérieur, on peut le faire. Mais dehors, ça sèche vraiment trop vite. Il y a peu de plantes qui vont travailler ça. Tu peux peut-être mettre tes succulentes dans un pot de cette taille-là, mais pas grand-chose d'autre. Fines herbes. Il y en a qui tendent à sécher, mais sécher autant que ça peut sécher. Vous comprenez, dans un pot de 6 pouces 15 cm, ça peut sécher complètement du matin au soirée. Mais c'est vite, il faut être là pour arroser deux fois par jour. Êtes-vous prêt à arroser deux fois par jour? Sinon, c'est pas un bon choix.
Daniel Cordeau. J'ai traité mes deux lauriers avec insecticides pour éliminer les cochenilles. Ils ont perdu leurs feuilles. Croyez-vous qu'ils sont encore vivants ou ils feront des nouvelles tiges?
Oui, il y a des très bonnes chances. L'insecticide peut être tué le feuillage. Les plantes sont capables de remplacer le feuillage. Ça pourrait aider. Il reste quand même que c'est tellement difficile d'éliminer les cochenilles que je suis rendu prêt parce que c'est assez loin de ma vie où j'ai pris le sagesse en vieillissant. C'est rendu que quand je trouve une cochenille, je jette la plante. Hein. Les chances d'éliminer complètement les cochenilles, c'est vraiment, vraiment minime. Ça arrive presque jamais. Je n'ai pas que quelques personnes réussissent, mais presque jamais. Habituellement, ça devient un problème qui revient encore et encore. Les cochenilles, c'est les pires problèmes qu'on a sur les plantes à l'intérieur de la maison. Voilà.
Sylvie Trépanier, elle a dit que l'an passé, mes pruniers Mont-Royal avaient plusieurs prunes avec de la mousse de champignons. Comment traiter?
Écoutez, le fait qu'ils l'ont fait une fois ne veut pas dire qu'ils vont l'avoir tous les ans. C'est très variable. Fruitier, c'est compliqué, les cultures. D'ailleurs, on m'a souvent demandé. Vous avez écrit des livres sur les semis, ceci, c'est ça, c'est l'autre. Mais vous n'avez jamais fait de livre sur les fruitiers. C'est parce que j'ai essayé de montrer comment aux gens, comment jardiner de façon la plus facile possible. Et que de définir les fruitiers, c'est jamais facile. C'est toujours compliqué. Donc, moi, je dirais, au moins que l'été, ça lance encore humide et sec. Paniquez pas tout de suite. Ça ne veut pas dire que ça va revenir. J'espère que vous avez nettoyé les fruits de l'an dernier. Ça aurait pu être suffisant. Mais chaque année, on porte souvent d'autres problèmes. Les fruits, c'est comme ça.
Karine Normando, j'ai un mur de 6 pieds en grosse roche qui soutient le terrain du voisin. Il y a des mauvaises herbes qui poussent entre les roches. Est-ce qu'il y a des plantes que je pourrais mettre à la place pour que ce soit plus beau? Avez-vous une idée?
OK. C'est réellement compliqué planter dans les fissures de mur. Mais incroyablement, vous n'avez pas l'idée. Vous pouvez toujours essayer de planter des succulentes de type sédum rustique en haut avec l'idée qu'elles vont peut-être descendre et s'enraciner dans quelques espaces. Mais autrement, ce n'est pas évident. Donc, la seule solution vraiment, c'est de cultiver au pied, pas en haut, au pied, des plantes grimpantes. Les vérités qui sont capables de grimper sur le mur. Comme ça, ces plantes-là vont cacher le mur. Et du bas, si vous avez quelque chose qui colle sur la pierre, comme disons une pierre de Boston ou encore quelque chose comme ça, de semblable, ça va tout cacher, ça va éliminer une bonne partie des mauvaises herbes parce qu'il n'y aura plus de lumière et vous n'aurez plus de mur. Mais c'est pas évident de planter dans un mur. C'est vraiment pas facile.
Une dernière question très, très, très rapide. J'ai un figuier. Que dois-je faire pour qu'il s'épanouisse? Il n'a que 4 feuilles.
Ben, c'est normal. Les figuiers perdent leurs feuilles l'hiver. Avec qu'il y ait 4 feuilles, on va avoir 0 feuilles. C'est pas plus compliqué que ça. C'est pas grave. Ben, vous allez l'acclimater aux conditions d'extérieur. Et vous faites la sortie relativement tôt. Hein. C'est pas une fois qu'il tourne une plante qui ne tourne pas le gel profond, mais qui tourne de fraîcheur. Donc, on peut le sortir assez tôt et vous pouvez donc le laisser dehors tout l'été où, avec un peu de chance, il va faire des fruits. De nouvelles feuilles, bien sûr, des fruits et que vous allez pouvoir manger. Et quand vous rentrez à l'automne, on peut laisser au sec et au frais et il perdra des feuilles encore. Voilà, ce sont les cycles. Et avec ça, on arrive à la fin de l'émission. Merci de l'avoir écouté. Merci beaucoup à Michel et à Marlène qui ont fait la technique pour l'émission. Je vous invite de revenir la semaine prochaine, toujours mercredi à 10h, et l'adresse, obviously, mon site web, c'est www.joanieperreçu.com. Bye-bye, bon jardinage!
Vous écoutez CKIA 88.3 Radio Urbaine.
L'acte de la beauté, un documentaire de Nicolas Paquet.
La propriété appartient très précisément à personne.
Venez à la rencontre de la ferme collective Sagittaire, l'œuvre de Jean Bédard, écrivain, philosophe et paysan.
Devant le grand jardin triomphant que je vois, un sentiment se forme de lui-même. C'est beau à pleurer.
L'acte de la beauté, dès le 25 février au Cinéma Quartier.
Pour tout savoir sur la programmation de CKIA, pour connaître ses activités, pour être au courant des événements culturels et communautaires de Québec, visitez le site Internet de la station au ckiafm.org ou branchez-vous sur nos réseaux sociaux Facebook et Twitter. Vous écoutez CKIA 88.3 FM, la seule radio progressiste de Québec.
Être vacciné contre la COVID-19 ne vous protège pas contre ça. Ou contre ça.
Mais qu'est-ce qu'on mange?
Ni ça. Vous protège pas de ça.
De la pluie et encore de la pluie cette fin de semaine.
Ou ça. Ou même de ça.
Ne quittez pas. Votre appel est important pour nous.
Par contre, avec le vaccin, vous êtes protégé contre le virus. La vaccination, encore et toujours la meilleure protection. Un message du gouvernement du Québec.
Sherpa présente Crash ton COVID.
Shakespeare et le Journal du Québec.
Quoi devient-on conspirationniste?
Les croyances comme celle-ci ne datent pas d'hier et sont plus répandues qu'on ne pourrait le croire. Le Québec n'en est pas à l'abri, surtout depuis l'avènement de la pandémie. Mais halte là! Les outrages de l'orgueilleux, les affres de l'amour dédaigné, les remises de la justice, l'insolence des gens officiels et les rebutades que les méritants rencontrent auprès des indignes, alors qu'un simple petit coup de pointe viendrait à bout de cela. Nous connaîtrons toutes les réponses à ces questions fondamentales cet après-midi à la conférence de presse prévue pour 13h.
Crash ton COVID.
Vous êtes un ou une mordu de l'actualité? Vous voulez savoir ce qui se passe aux quatre coins du Québec? Nous avons ce qu'il vous faut. À chaque semaine, Édition nationale vous convie à un tour complet de l'actualité, région par région, en compagnie des journalistes des différentes stations de l'Association des radios communautaires du Québec. Édition nationale, c'est tous les jeudis 16h à l'antenne de CKIA 88.3 FM et ckiafm.org.
Bonjour, ici Aude Malin.